Alors, avant de commencer le sujet qui nous occupe ce soir, durant les années précédentes, comme l'a dit Jean-Noël Dumont, nous avions consacré ces séances à aborder des thèmes, le droit à la vérité, le droit au logement, etc. Et puis, au fur et à mesure, on s'est aperçu que, finalement, c'était les questions qui revenaient fréquemment, questions lancinantes des fondements, des fondations, des racines, des problématiques ontologiques, des questions proprement philosophiques. Et pour replacer un peu les choses dans leur contexte, nous avons décidé de repartir un peu en quête de ces fondements et à travers ces quelques séances, d'aborder les thèmes principaux que l'on retrouve un peu partout avec des auteurs significatifs pour justement aborder les points de vue, puisque nous aurons des personnes aussi différentes que Hobbes ou saint Thomas d'Aquin. Mais en même temps, chacun apporte sa pierre à l'édifice, et pour comprendre, et surtout pour pouvoir se positionner de manière un peu plus pertinente dans les images un peu fumeuses et la confusion générale actuelle, c'est bon d'avoir ces références, et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers ces petites conférences. Alors bien évidemment, on a choisi quelques noms importants, avec un peu le souci chronologique, puisqu'on va partir de Cicéron, et on aurait pu finalement choisir Aristote plutôt que Cicéron, parce qu'il est plus souvent cité que Cicéron. Et puis on va aller jusqu'à Habermas, qui est un philosophe très important du XXe siècle, en passant par le Moyen-Âge, la période 18e-19e, et au fur et à mesure, on intégrera des personnages qui sont autres que ceux qui figurent dans les principaux thèmes. Et le thème qui me concerne ce soir, c'est de Cicéron à Michel Villet, on a intitulé, sous-intitulé « La dialectique du droit et des lois ». Alors, je vais même déjà faire le tour, puisque Cicéron, c'est le 1er siècle avant Jésus-Christ, et Michel Villet, eh bien, il est décédé il n'y a pas tellement longtemps, puisque il est décédé en 1988. Alors, juste derrière moi, il y avait la photo de la nuit Peggy, et Peggy, c'est 1914. Eh bien, en préparant, je me suis aussi aperçu que Michel Villet, il était né en 1914, donc on fête aussi son centenaire, et c'est une manière de lui rendre hommage dans ses conférences. Alors, simplement, pour un petit propos personnel, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un philosophe du droit, encore moins, je suis un praticien du droit, avocat, mais je m'intéresse à la philosophie du droit depuis longtemps, et Michel Villet en particulier, puisque durant toutes mes études, je crois que j'ai à peu près tout lu ce qu'il avait pu écrire. Alors j'ai des souvenirs encore importants, mais je sollicite votre indulgence sur les propos que je pourrais tenir. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, de Cicéron à Michel Villet, le premier réflexe qu'il faut peut-être avoir quand on parle d'auteurs aussi éloignés dans le temps l'un que l'autre, puisque Cicéron, c'est 106 avant Jésus-Christ et 43 avant Jésus-Christ, donc c'est la période César. D'ailleurs, c'était à la fois, il était près de César et opposé à César, mais surtout opposé à César sur la fin, puisque c'est un peu César qui l'a fait assassiner. Et Michel Villet, bah, c'est 1914-1988. Alors quand on prend des auteurs aussi anciens que Cicéron et de vouloir les appliquer à notre période actuelle, on a un peu tendance à idéaliser les idées qu'ils ont pu porter. Et il faut toujours veiller à replacer les choses dans leur contexte. Et donc je ne parlerai pas vraiment des idées de Cicéron, puisque sortis de leur contexte, sortis de la période romaine, elles sont difficilement transposables aujourd'hui. On ne peut plus interpréter Cicéron après avoir vu passer saint Thomas d'Aquin, après avoir vu passer Kant, Hegel, et puis j'en passe et d'autres. Donc c'est plutôt à travers l'esprit porté par ces personnages que j'essayerai d'aborder ces questions. Alors, pour reprendre ces deux auteurs. Le premier, Cicéron, c'est d'abord un homme de lettres. C'est quelqu'un qui était très cultivé pour son époque et qui a eu une vie, finalement, essentiellement une vie politique, puisqu'il s'est intéressé à la vie de Rome durant toute sa vie. Et à côté de sa vie politique, c'est ce qui nous ramène au droit, c'est quelqu'un qui a eu une activité d'avocat importante et il a réussi à combiner l'activité politique et l'activité juridique. Si Cicéron il est aussi perçu comme un philosophe, quand on regarde sa biographie, et à cet égard, on cite la biographie de Pierre Grimal, qui a maintenant plusieurs décennies, mais qui fait toujours référence, on s'aperçoit que ce n'était pas vraiment un philosophe au sens où on l'appellerait aujourd'hui. C'était d'abord quelqu'un qui était soucieux des questions de la vie et qui replaçait dans le tourbillon politique, puisque à Rome, ce n'était pas non plus très facile à cette époque-là. On ne parlait pas de coup d'État, mais c'était quasiment la même chose. Les assassinats étaient très fréquents. Et quand on voit César assassiné, Cicéron assassiné, et tant d'autres assassinés. Donc c'était vraiment pas la paix civile, comme on peut un peu le croire. Aujourd'hui, c'est un peu plus tard dans la période de Rome qu'il y a eu un peu plus de vie pacifique. Mais donc Cicéron, quand on aborde sa problématique de philosophie du droit aujourd'hui, eh bien, il faut la replacer plutôt dans le contexte de l'honnête homme. Et son ouvrage, son dernier ouvrage important qu'il a rédigé juste avant de mourir, il s'appelle d'ailleurs « Des devoirs ». Et dans les « Des devoirs », il a essayé de porter qu'est-ce que doit être la vie d'un honnête homme. Et c'était à l'intention de son fils. Donc Cicéron, ce n'est pas un philosophe, c'est un juriste dans la mesure où il est avocat. Mais je crois que c'est d'abord un homme politique. À l'opposé, Michel Villet, c'est le prototype de l'universitaire. C'est une personne qui est issue d'une famille de lettrés, d'universitaires importants, surtout en littérature. Et il a consacré toute sa vie à l'étude, à la recherche scientifique. Il a d'ailleurs fait une thèse qui est introuvable aujourd'hui, mais sur un thème très important. Il a fait une thèse sur la croisade. Et Michel Villet, il a abordé le droit d'abord en historien, puisque à l'origine, son parcours, c'était celui d'être un historien du droit. Et il s'est intéressé naturellement au droit romain. Et de par cette analyse de l'histoire du droit, il en est venu progressivement à la philosophie, puisque ses maîtres, c'était Aristote, c'était saint Thomas, et il en a tiré une philosophie du droit qui était très minoritaire à l'époque, qu'il est d'ailleurs toujours, et comme il le disait, la philosophie du droit n'avait même pas la place d'un strapontin à l'université, puisque on était dans un siècle complètement positiviste, et on y reviendra tout à l'heure. Donc, ces deux personnages, Cicéron et Villet, ils ont des parcours très différents, ils ont des objectifs vraiment ils sont incomparables, et pourtant, on va s'apercevoir que les idées qu'ils dégagent sont des idées qui sont finalement assez proches. Et dans leurs idées, on va retrouver la plupart des idées qu'on reprendra ensuite dans les autres auteurs, saint Thomas, Hobbes, même Habermas, Carbonnier, l'autre grand juriste avec Michel Villet, français du XXe siècle. Et parmi ces idées, il y a plusieurs choses qui en ressortent. Tout d'abord, ce sont des philosophes, si on peut dire, qui sont très proches de la nature. Et on dit souvent que Michel Villet a réintroduit la problématique du droit naturel dans le cadre de la pensée française. Et petite parenthèse, la pensée du droit naturel dans certains États a toujours existé, même en Belgique, par exemple, elle était beaucoup plus vivace qu'en France, sans parler de l'Amérique du Sud. En France, on ne parlait plus du droit naturel, c'était quasiment une matière non grata, si je peux le dire ainsi. Et donc, la question de la nature, c'était au cœur de la philosophie de Michel Villet, et c'est aussi un thème qui a toujours été au cœur de la pensée de Cicéron. Le deuxième point qui est commun aux deux personnages, c'est que ce sont des personnes qui ont toujours recherché le sens des choses à travers le dialogue. C'est Cicéron, dans la plupart de ses ouvrages, qui sont des plaidoiries. Et comment on intitulait les plaidoiries ? Bah, pro quelque chose. Donc, pro, et à côté, il y avait sed contra, donc le pour, le contre. Et Michel Villet a aussi remis en évidence toute la question du dialogue. Alors, à cette époque-là, on parlait de la dialectique, mais c'était une autre dialectique qui n'avait plus du tout le sens du dialogue d'Aristote. C'était, on va dire, une dialectique idéologique, alors que pour lui, c'était véritablement l'échange des arguments. Eh bien, Michel Villet et Cicéron se retrouvent dans cette question du dialogue, puisque pour eux, la recherche de la vérité passe par le dialogue. Et Villet était tout sauf quelqu'un de dogmatique, et il avait une phrase que j'ai retenue, il disait « L'erreur m'intéresse presque autant que la recherche de la vérité, puisque la vérité passe par les erreurs. » Le troisième point qui est commun à ces deux personnages célèbres, c'est qu'ils ont fait, alors on peut dire dès Cicéron, parce que Michel Villet, comme il vient très récemment, bah, il y a 2000 ans de philosophie du droit derrière, mais dès Cicéron, il y a la distinction entre la notion de droit et les lois. Pour eux, c'était quelque chose de totalement distinct, mais pas forcément quelque chose qui était contraire. Ils savaient, comme l'a dit Maritain dans un titre célèbre, distinguer pour unir, c'est-à-dire séparer ce qu'est le droit, ce qu'est la loi, mais sans pour autant les opposer ensemble. Et donc, à travers ces trois thèmes, ces auteurs se retrouvent et nous permettent d'élaborer quelques questions fondamentales sur la philosophie du droit. Alors, ces questions, elles ont finalement pour but, pour l'un et pour l'autre, de rechercher sur quelles fondations on peut bâtir une société durable. Et aujourd'hui, on parle du développement durable, mais finalement, Cicéron parlait déjà de la même chose. Et dans son petit traité des devoirs que j'ai trouvé, qui vient de paraître d'ailleurs 5 €, donc c'est pas cher, je peux vous conseiller de l'acheter, il disait une autre phrase, j'ai pris au hasard, qu'il ne fallait pas que les États s'endettent trop. Voilà. Et c'était déjà il y a 2000 ans. Je ferme la parenthèse. Mais donc, ces deux auteurs ont recherché des fondations sur la base desquelles on pouvait développer une société durable, parce que s'il n'y a pas de fondation, eh bien, c'est la guerre. Et les Romains étaient bien placés pour le savoir, parce qu'il y a eu de très nombreuses conquêtes à cette époque, et quand les légions romaines passaient, comme dans Astérix, ben, il n'y a plus grand-chose qui restait après. Donc, Ils ont recherché ces fondations en se posant quelques questions que je vais essayer de résumer. La première, c'est finalement de se poser la question « Pourquoi le droit ?» Alors, ça paraît un peu banal, peut-être un peu brut, mais la question « Pourquoi le droit ?» tout de suite, la réponse finalement est simple, et c'est d'ailleurs une maxime latine qui nous le dit, « Ubi societas ibi ius », là où il y a la société, il y a le droit. Et donc, le droit, ce sont les relations entre les personnes. Ces deux personnages ont bien mis en évidence que le droit n'existe que dans des situations où il s'agit d'arbitrer, en quelque sorte, entre des intérêts opposés des personnes, et le droit va rechercher ce partage, cet équilibre, et on y reviendra tout à l'heure, sur la fameuse notion très chère à Villet, le sum quique tribuere, donner à chacun le sien, et les relations entre les personnes, c'est véritablement quelque chose qui est fondamental chez ces deux auteurs. Relation, ça veut dire que on met en rapport, et personne, ça veut dire que les référents du droit, ben, ce sont les personnes humaines. Ce n'est pas des choses, ce n'est pas des abstractions, ce sont véritablement les personnes. Et bien dans cette simple expression « relation entre les personnes », finalement, on a tout un condensé de la philosophie du droit. Et le droit, par conséquent, va avoir pour but d'organiser ces relations pour assurer une structure sociale qui dispose d'une certaine autorité et qui va pouvoir assurer, autant que faire se peut, une certaine paix sociale. La deuxième question, c'est, après s'interroger sur le pourquoi du droit, c'est finalement aller un tout petit peu plus loin. Bah, qu'est-ce que ça veut dire véritablement le droit ? Et à cet égard, il y a dans un des ouvrages de Michel Villet, alors je les ai amenés, mais juste pour les voir, c'est les fameux petits ouvrages de philosophie du droit, les rouges, qui étaient en deux tomes, qui aujourd'hui, ben, ils ont été republiés. Mais Michel Villet disait une chose, à quoi sert-il de dire le droit si on ne sait pas quel type de droit on veut promouvoir. Donc, c'est bien beau de parler du droit, mais si on ne sait pas ce qu'est le droit à l'origine, ben, finalement, on risque de dire que telle chose est du droit, alors qu'en réalité, ce n'est absolument pas du droit. Donc, pour lui, il y avait la question ontologique qui était première par rapport à la question positive, à celle qui allait venir juste après. Et pour se poser la question de qu'est-ce que le droit, ces deux auteurs, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, ont dressé un lien entre ce qui est l'aspect naturel des choses, ce qui, pour dire autrement, et un peu le caractère intangible, donc dans le sens qui ne bouge pas, et finalement la réalité. Puisque nous, nous sommes des êtres vivants, alors que la nature, si on l'appréhende comme quelque chose qui est en quelque sorte l'incarnation de ce qui est, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas finalement vivant. Et à cet égard, il faudrait reprendre toute la problématique d'Heidegger qui a particulièrement travaillé là-dessus et qui est vraiment intéressante. Mais pour faire simple, ces deux auteurs se sont interrogés sur la question de la nature et de la réalité. Et finalement, ils ont essayé d'extraire le droit de la nature. Et il y a une vieille maxime qui date pas de Cicéron, mais qui date des canonistes médiévaux, qui dit « ex facto jus oritur », c'est du fait sourd du droit. Donc le droit émerge finalement du fait, mais à condition de comprendre le fait, pas simplement comme le fait accidentel, mais véritablement comme la réalité profonde des choses. Et donc, ce que ces deux auteurs veulent dire, c'est que le droit, il n'est pas fondamentalement préexistant à l'homme, mais il est quelque chose qui, comment dire, qui va sortir avec les actions humaines. Et ça va être toute la distinction entre le droit naturel et le droit proprement dit. On a beaucoup dit que Michel Villet était un défenseur du droit naturel, mais dans l'esprit de beaucoup, le droit naturel, c'est un petit peu le droit mythique, le droit idéalisé que l'on devrait appliquer dans la société. On dit c'est du droit naturel, donc c'est le meilleur droit, c'est le droit qui est bien, c'est celui qu'on devrait appliquer. Villet, il n'a jamais eu cette attitude. Pour lui, le droit naturel, c'était quelque chose qui pensait être à l'origine. Mais il n'a jamais confondu le droit proprement dit avec le droit naturel. Pour lui, le droit naturel, c'était une forme d'anticipation du droit, parce que c'est à travers les questions posées par le droit naturel qu'il aboutissait à la notion de droit. Puisque pour ces deux personnages, Villet et Cicéron, le droit, c'est pas une matière de réflexion, c'est pas de la métaphysique, ça contient sans doute des ferments métaphysiques, mais c'est d'abord une réalité. Ce sont des règles qui s'appliquent à des personnes dans des situations concrètes, et donc c'est quelque chose qui est vraiment de la matière concrète. Et c'est toute la différence avec le droit naturel, qui est une idée, qui sont des valeurs qui peuvent être portées, mais le droit naturel n'a en lui-même pas cette force positive qui va s'appliquer sur les personnes. Alors, ça nous renvoie ensuite, finalement, à la troisième question. Pourquoi le droit ? Qu'est-ce que le droit ? Et la question qui va derrière, c'est si on sait ce qu'on veut, si on sait où est-ce qu'on peut aller chercher le droit, ben c'est comment poser le droit. Et Villet et Cicéron ont tous deux expliqué, et j'y reviendrai, comment donner des règles aux personnes qui soient capables de respecter à la fois la dimension fondamentale des personnes, j'ai envie de dire la dimension métaphysique des personnes, et en même temps la préoccupation du droit qui est d'assurer la paix civile de la société. Donc, ils ont toujours opéré dans ce balancement entre la quête d'un droit, on va dire, quasiment universel, mais au sens des universalités plus du Moyen-Âge que de l'universel plus récent, et puis le souci, le réalisme politique, ou encore une fois au sens le plus classique du terme, pour lui donner une réalité dans l'ordre positif présent. Et c'est pour ça que ces deux, on les retrouve dans le souci à chaque fois d'un balancement, d'une dialectique. Et pour Villet, comme pour Cicéron, distinguer le droit et les lois, eh bien, ça va exprimer toute la problématique qu'ils ont recherchée finalement tout au long de leur vie. Il y a un va-et-vient qui est incessant entre les nécessités humaines, le besoin du droit, le besoin des lois, mais en même temps, le refus d'en faire des abstractions, le refus de considérer que le droit, la loi, ce sont des normes qui sont déterminées une fois pour toutes, ce sont des normes qui détiennent la vérité, que ce sont des fins en soi. À aucun moment, Villet ou Cicéron n'ont finalement fait la promotion du droit ou des lois. Tous deux ont toujours indiqué que le droit, les lois, ce sont des instruments au service des personnes. Et c'est une pensée qui paraît peut-être tout à fait simple, traditionnelle, mais pour ce qui est du moins de Villet, c'est quelque chose qui n'était absolument pas évident dans le contexte intellectuel dans lequel il était et dans l'ensemble de la pensée française. Alors, si vous le voulez, je vais reprendre ces deux problématiques en les orientant dans deux mouvements successifs que je vais aborder. Le premier, c'est de rappeler l'esprit romain et la quête de justice que ces deux personnages ont essayé de développer. Et puis, le deuxième, c'est d'autres forces qui, justement, ont altéré ou ont essayé de supplanter cet esprit romain et cette quête de justice. C'est la tentation impérialiste de la loi et finalement la dénaturation du droit par la loi. Alors, je vais reprendre le premier, l'esprit romain et la quête de justice. Ceci, on le retrouve dans la maxime que Villet a toujours rappelée, le sum quique tribuere. Donner à chacun le sien, répartir à chacun le sien. Pour lui, le droit, c'était un peu comme Aristote, c'était une proportion. Le droit n'a jamais été une fin en soi. Et pour illustrer la pensée de Villet, je vais vous donner une toute petite citation, mais qui est extrêmement significative. Dans ce qui s'appelle les carnets, c'est-à-dire un recueil de pensées de Villet sur les petits carnets qu'il a notés tout au long de sa vie et qui ont été publiés après sa mort, il y avait une phrase suivante. Il disait « Les modernes étudient le droit, Aristote observe les juristes ». Eh bien, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. C'est qu'aujourd'hui, on a fait du droit une fin en soi, une mécanique, alors que Aristote, eh bien, il examinait pas le droit, une chose, mais des juristes, c'est-à-dire des personnes qui s'intéressent à la chose de justice. Alors, pourquoi cet esprit romain et cette quête de justice, elle est une préoccupation commune? Première chose, pour Cicéron, a fortiori parce que c'est sa période, mais pour Villet, dont j'ai dit qu'il était un historien du droit et qui s'est beaucoup intéressé au droit romain, le droit romain, pour lui, c'est un condensé de ce qu'est le droit. C'est une émanation du droit naturel parce que le droit romain, il s'est constitué non pas, sans rentrer dans des anachronismes, mais il s'est constitué de manière, un peu empirique. Là aussi, il ne faut pas utiliser le terme comme on l'utiliserait plus tard dans la philosophie, mais il s'est fait un peu par la force des choses. C'est-à-dire que le droit romain, il s'est constitué au fur et à mesure de l'organisation de la société. Il ressort de l'ordre des choses. C'est-à-dire que le droit romain, il a procédé par des ajustements petit à petit qui ont abouti à mettre un équilibre dans la société. Et il y a un des instruments du droit romain qui est très important et sur lequel Cicéron insiste beaucoup, c'est par exemple la propriété. La propriété, c'est la limite. C'est l'imes romain. La propriété, c'est justement un moyen de se séparer des autres, non pas pour exclure l'autre, mais tout simplement pour respecter l'autre. Et la responsabilité, hein, et ben dans responsabilité, même si sur l'étymologie on peut discuter, il y a le mot « res », et puis il y a la réponse derrière. Donc il y a les deux choses. Il y en a qui disent qu'il n'y a que la réponse, mais il y en a d'autres qui disent que c'est la réponse par rapport à une chose. Donc c'est la manière de mettre des limites. Eh bien, Vinet et Cicéron ont été particulièrement les défenseurs du droit romain parce que pour eux, le droit romain, c'était l'expression même du droit. C'est quelque chose qui sort de la nature des choses et qui, petit à petit, trouve son ordonnancement. Le deuxième élément sur l'intérêt du droit romain, c'est que le droit romain, c'est aussi le modèle du droit relationnel ou du droit qu'on pourrait appeler dialogique, on dirait aujourd'hui, ou dialectique. Mais le droit romain, c'est un droit qui s'est toujours constitué par la controverse. C'est un droit qui se veut judiciaire dans le sens où il y a un arbitrage d'un tiers. C'est un droit qui est fondé sur l'échange. C'est un droit qui prend en compte l'ensemble des parties. Et c'est pas pour rien que Cicéron fut un avocat qui a toujours, dans ses plaidoiries, bien exposé la position de l'un, la position de l'autre, avec la perspective d'en développer une argumentation par rapport aux problèmes posés. Eh bien, Michel Villet a été particulièrement attentif à cette vertu du droit romain qui a consisté à rechercher la relation entre les choses, le pro sed contra, c'est quelque chose qui est au cœur de la pensée de ces deux personnages. Alors, en cela, c'est pas quelque chose de nouveau, puisque, comme vous le savez, c'est le dialogue, la rhétorique, c'est pas quelque chose qui est romain à la base. C'est au contraire quelque chose qui est plutôt grec et Aristote a beaucoup repris les philosophes. Je vais faire un lapsus. Cicéron a repris les philosophes grecs et notamment Aristote. Et Vinet s'est aussi beaucoup fondé sur Aristote pour développer toute sa philosophie. Eh bien, ils ont remis au goût du jour la rhétorique avec toute la force de cette méthode d'argumentation qui n'était pas forcément évidente pour Cicéron parce qu'on est à l'époque, il ne faut pas l'oublier, mais des conquêtes. Donc, ce qui prévalait, ce n'était pas la discussion, c'était les armes. Hein. Les discussion pour savoir qui était consul, c'était quasiment la loi du plus fort. C'était celui qui avait le plus de troupes, c'était celui qui avait le plus de moyens, c'était celui qui était capable d'imposer sa situation aux autres. Et Michel Villet, eh bien, il a rappelé aussi l'usage de la rhétorique, parce que dans l'université française du XXe siècle, c'était pas forcément non plus la libre discussion des idées. Et il a voulu remettre la dialectique au goût du jour, avec une petite provocation par rapport à cette utilisation du terme qui avait été dévoyé. Mais tout ceci pour dire que le propre de l'homme, c'est aussi d'être un être limité, et à travers la dialectique, c'est une manière d'exprimer notre finitude, c'est une manière de rechercher à travers l'autre le sens de la vérité. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que c'est deux philosophes aussi de l'altérité, parce qu'ils ont apporté beaucoup d'intérêt à cette logique relationnelle qui est au cœur du droit romain. Et quand on regarde dans l'histoire les autres droits, finalement, il y a très peu d'autres droits qui sont des droits relationnels. On a le droit de la common law, qui est, on va dire, un peu d'essence relationnelle, mais pas tant que ça finalement, puisque le droit de la common law, c'est d'abord un droit de, on va dire, d'utilité, c'est un droit des accords, mais c'est moins un droit de la discussion. Et finalement, le seul droit véritablement relationnel qui existe, bah, c'est le droit romain. Et quand on prend le droit français par la suite, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une logique de droit relationnel, on est dans une logique de droit étatique, puisque le droit ne provient pas des échanges des personnes, le droit provient de la règle qui a été posée par un État. Alors, ce droit romain, dans son intérêt, c'est qu'il organise les relations entre les personnes, il organise les relations entre les biens des personnes, il organise les relations entre les échanges des personnes. Et la force du droit romain par rapport au droit grec, pour Villet, ça a été de dire que le droit romain, c'était un droit qui était déjà précis et qui apportait un plus par rapport à tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. Et pourtant, le droit, il existait bien avant le droit romain. Il suffit, par exemple, de penser au code d'Hammurabi qui était encore plus ancien. Mais surtout, ce droit, il s'est toujours appuyé sur des structures, sur des personnes qui étaient capables de l'incarner, c'est-à-dire des juristes. Ce sont des personnes qui avaient un sens du juste, et il y a un terme qu'on cite aujourd'hui très rapidement, mais qui, encore une fois, a perdu beaucoup de sa saveur, c'est le terme de jurisprudence. Eh bien, jurisprudence, c'était vraiment l'expression de ce que le droit romain voulait incarner. La prudence, chère aussi aux Grecs, et puis le juris, avec le jus qui est derrière, c'est la notion de justice. Donc, c'est la recherche d'une action juste entre les hommes. Et comme on sait que, de toute façon, le juste est finalement inatteignable, eh bien, on fait confiance aux personnes pour essayer de rechercher la position qui paraît la moins mauvaise. Donc, le droit romain, pour ces deux personnes, c'était aussi un droit qui avait la vertu d'exprimer une certaine humilité. C'était un droit qui ne se voulait pas détenteur de la vérité. C'était au contraire un droit qui ouvrait sur la vérité à travers l'échange entre les personnes. Et là-dessus, alors sur Vidée et sur Cicéron, c'est un tout petit peu différent, mais sur Cicéron, il y avait un peu derrière lui le stoïcisme qui était très présent. Vidée, c'était un chrétien, mais un chrétien un peu à la Bernanos, on va dire, un chrétien qui était mystique, mais qui était contraire au dogmatisme et qui avait plutôt le sens du mystère que le sens du bénitier, si je peux dire, sans être désagréable envers quiconque. Et dans le droit romain, eh bien, il trouvait cette forme d'humilité humaine parce qu'il y avait l'ouverture sur la nouveauté et en même temps, il y avait quand même des valeurs fortes qui étaient posées et qui permettaient de promouvoir le sens des personnes, d'essayer d'atteindre la forme de justice. Et c'est pour cela que Villet aussi n'a jamais voulu avoir de la notion de justice l'image que l'on a aujourd'hui où on recherche du juste un peu quelque chose comme étant presque la justice divine, c'est-à-dire une justice métaphysique, une justice absolue. Pour Villet, la justice, c'était d'abord de permettre la répartition des choses entre les personnes. Et pour lui, le droit, le sum cuique tribuere, c'était justement cette recherche de la proportion, cette recherche de l'équivalence, cette recherche un peu de ce qu'on a appelé après l'équité, c'était rechercher quelque chose qui assurait le respect de chacun. Eh bien, c'était déjà une forme de justice, c'était une justice peut-être modeste, peut-être humble, mais finalement, il a dit, quand on est dans l'ordre positif, c'est peut-être la seule justice qui soit véritablement vraie, si je peux faire cette tautologie, parce que toutes les autres justices, elles finissent ni plus ni moins qu'à tomber dans des idéologies. Alors, Cicéron était moins dans ce registre parce que, bien entendu, il n'avait pas connu tous les 2000 ans d'histoire que Villet a connu. Mais pour Villet, c'était aussi l'intérêt du droit romain. C'était de poser des normes qui, en recherchant le juste entre les choses, évitaient de transformer ce juste en une valeur idéologique qui allait être tributaire du subjectivisme des personnes et d'un idéalisme qui pouvait parfois aller jusqu'au totalitarisme. Et donc, dans cet esprit du droit romain, eh bien, il y avait le sens de la modération, il y avait le sens d'une vraie justice, d'une justice qui recherche l'équilibre entre les parties. Et quand on regarde toute la symbolique de la balance, eh bien finalement, on retrouve beaucoup de cet esprit de Cicéron et de Vidée. Donc, l'esprit romain, la recherche d'une quête de justice. Ça, c'est l'histoire, c'est ce que ces deux personnages ont tenté de promouvoir. Mais à côté de cet esprit romain, bien, ils ont dû lutter contre d'autres choses, et notamment la tentation impérialiste de la loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la dénaturation du droit par la loi. Alors là également, je vais vous citer un extrait des carnets de Villet, qui exprime finalement le fond de sa pensée. Il disait « Le positivisme commence par la méthode alors qu'il faut commencer par l'ontologie. Parce que la méthode présuppose une ontologie, postule un choix ontologique. Si je voulais le dire de manière un peu plus triviale, il disait il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que vouloir faire des lois, mais sans savoir ce que la loi veut dire, eh bien c'est sûr qu'on se trompe de point de départ et de point d'arrivée. Alors, comment s'est exprimée cette tentation impérialiste ? On peut distinguer plusieurs aspects. Le premier, c'est que la loi, et y compris à l'époque cicéronienne, elle a tendance à enfermer le droit. On a vu depuis toujours que le droit pouvait se faire phagocyter par la loi. Et en France, on connaît particulièrement bien le phénomène depuis qu'on a indiqué que la loi était l'expression de la volonté générale. Et donc, finalement, la loi, c'est la vérité. Alors, la loi enferme le droit. Il y a deux idées qui sont un peu à l'origine de cela. Il y a la première idée, c'est que il y a un peu la confusion entre ce qu'on a appelé la loi avec un grand L, c'est-à-dire un peu la loi divine, et puis la loi avec un petit L, c'est-à-dire la loi humaine. Et très souvent, on passe de la loi avec un grand L avec la loi à un petit L, et finalement, on en vient à rendre positif, c'est-à-dire à transformer en règle sonnante et trébuchante ce que on croit être la loi divine, et finalement on réduit la question divine à son propre à sa propre personne. Et comme disait un auteur lyonnais bien connu, Jolivet, le philosophe, c'est que réduire Dieu à soi-même, c'est finalement se tromper gravement, parce que Dieu demeure l'inconnaissable. Eh bien, c'est aussi toute la problématique du droit naturel. C'est la tentation, encore aujourd'hui, même dans une actualité récente, de vouloir transformer des prétendues règles de droit naturel en des règles de loi de droit positif. Et quand Villet, à la fin de sa vie, il était au cœur de ce sujet, puisqu'il était en train de rédiger un ouvrage qui malheureusement n'a jamais pu paraître, mais qui aurait été absolument formidable, c'est qu'il était en train d'étudier, de faire un ouvrage sur la loi et la Torah, puisqu'il regardait la loi de la Torah avec la loi des juristes, pour essayer de montrer comment on passait facilement de cette loi divine à cette loi humaine. Donc ça, c'est le premier point. La loi avec un grand L a tendance à devenir une loi avec un petit L. Et finalement, puisque on considère que la loi que l'on a positive, c'est ni plus ni moins que l'émanation de la loi divine, c'est normal que ça devienne le droit et ça possède la légitimité du droit. Et ça, c'est une erreur fondamentale qu'ils ont tous deux dénoncée, parce qu'ils n'ont cessé d'indiquer, a fortiori Cicéron, qui avait une relation avec la loi divine qui est encore une fois avant la chrétienté, donc il faut remettre dans son contexte, qui demeure fausse, puisque à aucun moment on peut prétendre connaître la loi divine. Le deuxième élément qui montre que la loi peut être enfermée dans le droit, c'est que la problématique politique nous démontre depuis toujours que c'est plus facile finalement d'imposer des choses aux autres plutôt que de rechercher la vérité à travers l'échange entre différentes personnes. Et plutôt que d'aboutir à des discussions avec un ordre consenti, eh bien, on impose une loi qui a vocation à devenir le droit. Alors, aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un fait divers, eh bien, on dit, voilà, on va faire telle loi. Et finalement, c'est le droit qu'on assassine, entre guillemets, parce qu'on réduit la question du droit à un élément qui est la loi. Et la loi va être censée devenir l'horizon juridique par excellence, alors que ce n'est qu'un élément du droit. Donc, il y a à la fois la problématique religieuse et puis la problématique politique qui enferme la loi dans le droit. Et Vinet, comme Cicéron, ont toujours lutté pour la distinction entre la loi et le droit. Cicéron, par exemple, il a beaucoup défendu le respect du droit par rapport aux prérogatives que pouvaient avoir les sénateurs romains. Pour prendre un exemple, à son époque, il s'était posé plusieurs fois la question des réformes des lois agraires et de nombreux sénateurs disaient on va voter la loi comme ceci et ça aboutira à telle situation. Et plusieurs fois, Cicéron avait pris la parole au Sénat pour indiquer que c'est pas parce qu'on changeait éventuellement la loi que l'on est allé aboutir à un ordre juridique qui soit conforme des intérêts de la République romaine. Donc il faisait bien la distinction entre le pouvoir des sénateurs et puis l'autorité du droit. C'est ce que d'autres ont fait sous la distinction entre la potestas et l'auctoritas, c'est-à-dire entre le pouvoir et l'autorité. Et dans Vinet, il a aussi beaucoup mis en évidence cette question, puisque à son époque, c'était le règne par excellence du positivisme, c'était toute la législation qui découlait du fameux principe de la loi expression de la volonté générale et donc de la loi comme étant le résultat du phénomène politique. Et il avait notamment beaucoup étudié la loi chez les marxistes pour démontrer que la loi ne pouvait en aucun cas enfermer la totalité du droit. Et à cet égard, il y a, juste une parenthèse, un autre auteur qui mériterait finalement d'être confronté à ces deux, c'est Hayek. Je ne sais pas si vous connaissez Hayek, qui est plus connu comme étant un économiste, mais qui a écrit un ouvrage absolument magistral qui reprend cette problématique, qui s'appelle « Droit, législation et liberté ». Et il fait bien justement la distinction entre le droit, la législation et puis ce qui va au milieu, la liberté. Le deuxième élément sur la tentation impérialiste, c'est que finalement, les hommes y trouvent un intérêt à utiliser la loi pour dessiner le droit qui leur convient. Et là, c'est à la fois dans le droit romain, mais encore plus dans le droit récent, c'est, le terme est anachronique au niveau romain, mais pas au niveau contemporain, c'est toute la problématique du constructivisme. Parce que à travers toute une organisation juridique, à travers tout un corpus de lois, on a essayé de bâtir un droit nouveau. Alors certains ont vraiment voulu faire un droit nouveau. Aujourd'hui, on en fait de quelque manière un droit nouveau. Et ce droit nouveau, on ne le fait pas par rapport aux relations entre les personnes, on le fait vraiment par l'impératif politique. Et Villet comme Cicéron ont refusé de développer le droit comme étant une règle qu'il s'agissait de produire pour faire des constructions juridiques, parce que pour eux, le droit ne devait exister qu'à partir du moment où il y a un besoin. Si on se sent obligé de construire du droit, on fabrique de l'artificiel, on fait un peu des tours de Babel, on fait du constructivisme, c'est-à-dire que on produit des architectures, mais ce n'est pas l'objet du droit. On dénature la totalité du droit parce que le droit a pour vocation de traiter les différends entre les personnes, d'organiser la vie sociale, d'assurer la paix civile, mais est-ce qu'il a pour objet de transformer la société, eh bien, que ce soit Villet et Cicéron, y laissaient au droit le rôle de la régulation entre les personnes. Pour eux, il y avait la distinction entre l'ordre politique et l'ordre juridique. Si dans l'organisation politique, les responsables politiques ont pour mission de gouverner la société, ils n'ont pas pour mission d'utiliser les lois pour provoquer cette transformation. S'ils utilisent le droit, eh bien, c'est plus du droit qu'ils font, c'est de la réglementation, c'est ce que Ripper avait dénoncé dans un autre ouvrage, le déclin du droit. On ne parle plus véritablement de droit, mais on parle de règles juridiques, de règles qui sont imposées. Donc, première chose, la loi enferme le droit. Deuxième chose, la propension au constructivisme. La troisième chose que j'ai déjà un peu abordée, c'est la confusion entre la loi avec le grand L et la loi avec le petit L, puisque cette problématique revient toujours, j'y reviens pas. Et puis, quatrième point, pour ces deux auteurs, le droit n'a jamais cessé d'être au-delà de la loi. Le droit est plus grand que la loi et pas l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? Ils veulent dire que si le droit rassemble la matière juridique, la loi n'est qu'un élément de cette matière juridique. Ça veut dire que quand on est confronté à un cas juridique, on ne va pas d'abord chercher quelle est la loi pour déterminer quelle est la solution juridique. On va d'abord examiner la question sous l'angle quel est le problème posé pour rattacher à une règle juridique. Alors, il y a un auteur contemporain qui s'appelle Attias, certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a écrit notamment un ouvrage qui s'appelle « Épistémologie juridique ». Et dans cet ouvrage, il explique précisément comment on aborde la problématique juridique et comment va se construire le droit. Eh bien, selon qu'on aborde le droit par les questions, c'est-à-dire quel est le problème posé dans le litige et donc quelles sont les règles que je vais chercher, ou selon qu'on aborde le problème comme étant quelles sont les lois susceptibles de s'appliquer et on transpose les règles au cas d'espèce, eh bien, on aboutit à des solutions totalement différentes. Dans un cas, c'est du droit qu'on va essayer de faire émerger. Et dans l'autre cas, ce n'est ni plus ni moins que de l'interprétation de la loi. Et c'est pour ça que Villet, notamment, était un adversaire du syllogisme, parce qu'il considérait que le syllogisme était réducteur, dans la mesure où, au lieu de partir des faits, eh bien, on partait d'abord de la loi, et c'était la loi qui réduisait la problématique posée pour donner une solution. Eh bien, ces deux auteurs ont essayé de distinguer le droit de la loi. Le droit, c'est finalement l'ensemble de la matière juridique, et la loi, c'est un élément de la matière juridique. La loi a tendance à absorber le droit, mais pour eux, il faut bien distinguer ces deux sphères, car elles ne se rejoignent pas complètement. Alors, est-ce que pour autant, ça veut dire que la loi est inutile ? Ben absolument pas, puisque ce soit Cicéron ou Villet, tous deux ont considéré que la loi était quelque chose de très important parce que ça permettait de fixer des normes, on dirait aujourd'hui, de fixer des lignes de conduite qui servaient de référence pour trancher une solution. Mais encore une fois, les lois n'ont pas vocation à être absolutistes, elles ont simplement vocation, et Attias il démontre bien dans l'épistémologie, ils ont vocation à être des informations sur la base desquelles on va s'appuyer pour aboutir à une solution. Si je voulais le dire de manière un peu triviale, les lois, c'est un peu comme le code de la route, c'est-à-dire qu'on a des panneaux, et en fonction de ces panneaux, on essaye de s'orienter. Et les lois, ça ne doit pas être un tunnel avec la route dans lequel on s'engage et qu'on ne peut rien faire. C'est au contraire des éléments d'information, et le droit, eh bien, c'est comment on va réussir à se mouvoir à travers tous les éléments d'information dont on dispose. Et c'est pour ça que les lois ne doivent jamais enfermer le droit, parce que le droit, il n'est pas dans la loi, le droit, il est en dehors de la loi. La loi n'est qu'un élément qui permet d'aboutir au droit. Je disais tout à l'heure, ex facto jus oritur, eh bien, c'était l'expression chère à Villet qui rappelait que ce défait que le droit va sortir par le truchement, le cas échéant, des lois. Alors, ces trois éléments aboutissent pour l'un et pour l'autre à refuser ce que on a appelé plus tard, puisque à l'époque de Cicéron, l'expression n'était pas connue, mais elle était un peu sous-jacente, c'était de refuser la question du droit subjectif. Pour Villet, surtout, le droit n'est pas un droit subjectif. Et il a écrit un ouvrage qui a fait un peu sensation, et qui en plus, il l'avait dédicacé au pape Jean-Paul II, qui est « Le droit et les droits de l'homme ». Et il était opposé à la notion de droit subjectif, et pour lui, c'était le droit relationnel. Parce qu'il disait, le droit ne peut pas être un absolu, il peut être simplement une règle de partage. Et donc le droit n'était absolument pas une propriété, le droit est un lien entre les personnes. C'est pas une individualité, c'est quelque chose de relationnel. Alors, qu'est-ce que on peut en tirer de cette relation entre Villet et Cicéron? Et je vais faire une petite conclusion pour justement permettre un échange par la suite, puisque l'objectif, c'est encore une fois la dialectique pour illustrer ces deux personnages. Je vais reprendre une citation de Villet. Pour lui, la loi n'est pas à l'origine, mais le terme du droit. Ça veut dire que la loi, c'est quelque chose qui se construit avec le droit. La loi ne va pas en opposition du droit, c'est un élément du droit. Donc toujours penser à distinguer ces deux ordres, parce que si elles viennent à fusionner, eh bien ça se fera nécessairement au détriment du droit. Et si ça se fait nécessairement au détriment du droit, c'est que la loi deviendra une norme totalitaire, puisqu'elle englobera la totalité du droit, et si elle devient totalitaire, eh bien, ça sera l'antinomie même de la justice, puisqu'il n'y aura plus cette relation d'équivalence. Et donc, pour lui, il ne faut absolument pas confondre le droit qui demeure relatif, qui demeure provisoire, avec la notion auquel on a réduit le droit aujourd'hui, qui est le droit positif. Le droit, c'est une idée qui se construit tous les jours. C'est quand nous allons au tribunal et que nous attendons une décision, quand on dit bah, quel est le droit, finalement le droit, on ne le connaît pas. Le droit, c'est ce qui va sortir de la décision que le juge pourra nous donner. Et pour autant, de par simplification, on parle souvent du droit positif. Mais en fait, c'est un abus de langage. Le droit positif, c'est simplement un état positif du droit, un état approximatif du droit à un moment donné, qui, encore une fois, va nous servir d'information pour essayer de trouver une solution qui soit non pas l'expression absolue du droit, mais qui sera quelque chose de provisoire, quelque chose qui sera la recherche du mieux, la recherche du juste, avec toutes les limites que cela comporte. Alors pour terminer, je vais vous prendre une dernière citation qui n'est pas du tout de Cicéron ni de Villet, que j'ai extrait du discours de Harvard de Soljenitsyn dans Le déclin du courage, mais qui m'a semblé bien illustrer la problématique de ces deux auteurs, puisque si Cicéron, si Villet ont revendiqué être des juristes, ils n'ont jamais fait non plus de cette qualité de juriste un absolu. Et pour eux, il y avait quelque chose qui était au-delà du droit. Et comme je l'ai dit au début, le droit, c'est la relation entre les hommes, c'est-à-dire que la fin de tout, c'est les hommes, c'est pas le droit qui n'est pas une fin en soi. Alors Soljenitsyn, dans ce discours de Harvard de 78, il disait « J'affirme qu'une société où il n'existe pas de balance juridique impartiale est une chose terrible. » Mais une société qui ne possède en tout et pour tout qu'une balance juridique n'est pas, elle non plus, vraiment digne de l'homme. Une société qui s'est installée sur le terrain de la loi, sans vouloir aller plus haut, n'utilise que faiblement les facultés les plus élevées de l'homme. Et face aux épreuves du siècle qui menacent, jamais les béquilles juridiques ne suffisent à maintenir les gens debout.